toi que nous crions chaque jour pour te dire, Jésus, nous avons besoin de toi. Sois notre berger, sois notre gloire. Relève nos têtes, restaure-nous, aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à accomplir la mission de Matthieu 28, 18 à 20, de faire de toutes les nations des disciples. Aide-nous à rester debout jusqu'à ton retour dans la foi. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Sois béni éternellement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 13 à 17. Donc c'est un rappel sur l'enlèvement que nous voulons faire aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Il est écrit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et ce texte lui-même décrit, c'est quoi l'enlèvement? Donc, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les chrétiens vivants, les vrais chrétiens vivants, seront transformés en un instant et monteront rejoindre ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités d'abord et transformés aussi pour rejoindre le Seigneur au ciel. Ça, c'est ce que dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu des disciples de Jésus, c'est ce qu'on appelle enlèvement. Et le texte lui-même l'explique. Il n'y a pas besoin vraiment d'expliquer plus que ça, mais nous tenions à lire le texte dans son entièreté afin que chacun voit clairement. Et il y a aussi un autre texte qui en parle dans 1 Corinthiens 15, 51-52. 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Donc il y a des gens qui vont mourir. D'autres ne mourront pas, mais que ce soit ceux qui sont morts, en parlant des enfants de Dieu, que ce soit les vivants, à un moment, tous seront changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Voilà, nous voyons encore une allusion à ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, à un moment donné, le Seigneur reviendra et les disciples de Jésus seront transformés et les disciples morts ressusciteront d'abord et puis seront transformés et ils monteront tous rejoindre le Seigneur au ciel. C'est ce que nous appelons enlèvement. Et c'est un fait biblique clair. Donc nous venons de lire deux passages qui sont très clairs. Il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à débattre, c'est très clair. Et d'autres passages aussi font allusion à ce que nous venons de lire. Nous lisons par exemple Tite 2, 11 à 14. Tite il est écrit ceci, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Cet enlèvement est appelé dans ce texte la bienheureuse espérance. Donc Jésus-Christ se manifestera dans sa gloire et nous nous serons enlevés par lui. Et il est écrit au verset 14 que Jésus, s'il s'est donné, c'est pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne. Parce qu'à un moment donné, nous poserons la question, mais qui va être enlevé? Qui va partir avec le Seigneur? Et ce verset 14 est très important pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc un peuple qui lui appartienne. Vous savez, les pharisiens faisaient des choses de Dieu, mais ils n'étaient pas de Dieu. Ils étaient même au temple. Appartenir à Dieu, ça ne veut pas dire chanter et prier ou lire la Bible. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le français. Appartenir, ça veut dire que tu es à Dieu. Donc, il dispose de toi comme lui, il décide. C'est ça qui va différencier, les enlever de ceux qui vont rester. Parce qu'il y aura des gens qui vont rester. Ce qui dit enlèvement, on prend un groupe et l'autre groupe reste. Et nous avons une autre allusion à cela dans Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17. Appartenir au Seigneur et vivre pour lui. C'est ça qui va qualifier les gens pour l'enlèvement. Ce n'est pas ceux qui font des activités pour Dieu, mais ce sont ceux qui lui appartiennent. Luc 17. Et il dit aux disciples à partir du verset 22, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc ce texte nous montre qu'il y a des gens qui seront pris, mais pris pour aller où? Donc des gens qui seront enlevés du milieu des autres. Et le Seigneur nous donne l'image de Sodome et Gomorre et du temps de Noé. C'est-à-dire que Noé a été enlevé du milieu des autres humains. Dans l'arche, il a été mis et puis il est resté dans l'eau alors que les autres ont péri. Mais Avant, il a fallu l'enlever, le sortir du milieu des autres par la pluie. Le déluge a fait que Noé a été éloigné des autres. Et ensuite, la pluie a submergé tout le monde. Il nous donne l'exemple de Sodome et Gomorre. Il a dit, Lot a d'abord été enlevé. Au fait, ce n'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Même si Paul appelle ça un mystère, le mystère est dû au fait que Paul décrit comment ça va se faire. C'est ça le mystère. Mais le reste, c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement de Dieu. Quand il vient pour juger, il enlève d'abord les justes, ensuite il frappe ceux qui restent. C'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer, mais c'est ce qui s'est passé aussi. Autrefois, il a d'abord mis son peuple à part et il a commencé à juger l'Égypte. C'est toujours comme ça que ça se passe avec Dieu. Il enlève d'abord ceux qui sont de lui, ensuite les autres vivent son jugement. Ceux qui n'ont pas voulu croire, ceux qui n'ont pas voulu céder, ceux qui n'ont pas voulu appartenir à Dieu, ils subiront la colère du Seigneur. Voilà, pour résumer, c'est quoi l'enlèvement? Ces textes nous ont été lus et voilà un peu le système que Dieu a prévu pour récupérer ceux qui lui appartiennent. Et l'apôtre Paul, dans Tite 2 qu'on a lu, appelle ça la bienheureuse espérance. Parce qu'un vrai chrétien n'est pas celui qui pense construire des châteaux en Espagne. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui cherche à réussir sur terre. Un vrai chrétien a compris que la terre, ce n'est pas pour lui. Nous ne sommes que des passages. C'est écrit dans 1 Pierre 2, 11. Comportez-vous en voyageurs sur la terre, vous êtes de passage. C'est ça le vrai chrétien. Il sait qu'on est de passage et qu'il doit faire sa mission pendant qu'il est de passage. Et étant de passage, le vrai chrétien non plus n'est pas à 100% content parce qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui polluent sa vie, qui lui mettent une pression, qui, vous savez, rien que voir l'injustice, c'est quelque chose qui gêne. Quand on voit par exemple un président qui a 77 ans, un homme qui a 77 ans, et qui n'arrive même pas à parler, poser une candidature à la présidence, bien-aimé, ce qui se passe en Algérie, ça offusque. On se dit, mais on prend les gens pour des animaux ou quoi? Le monsieur, on le montre à la télé, il n'arrive même pas à bouger le bras et à parler, mais il pose sa candidature pour la présidence. Et quand on voit de telles choses, on se dit, mais on prend les Algériens pour qui? Tout ça, ce sont des choses qui énervent. Ce sont des choses qui empêchent le chrétien de vivre à 100% heureux. Alors, un vrai chrétien attend le jour où le Seigneur viendra pour l'enlever. Ce n'est pas celui qui cherche par tous les moyens à s'enrichir sur terre. Le chrétien, il travaille, il fait ce qu'il faut sur terre, mais son espérance que le Seigneur vienne bientôt. C'est ça le vrai chrétien. Parce qu'il est conscient que sur la terre, non seulement qu'il est de passage, ce n'est pas sa terre, ce n'est pas un endroit où il peut être vraiment heureux parce que le mal domine sur la terre. C'est écrit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que le ténèbre domine, le diable domine sur la terre. Et à cause de ça, le chrétien attend une délivrance. Quand est-ce que le Seigneur viendra le récupérer? Et c'est ça que nous donnerons en première condition pour répondre à la question, mais finalement, qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Ben, c'est la personne qui attend ça qui sera enlevé. Et la personne qui n'attend pas ça, qui ne soupire pas après le retour de son maître, ne sera pas pris parce qu'il n'attend pas ça, il ne cherche pas son maître. Il n'a pas soif de son maître. Il veut construire sur terre et tout faire sur terre, et de telles personnes resteront parce qu'ils n'attendent pas, ils n'attendent pas le maître. Et un texte va nous aider aussi à répondre à tout ceci dans Matthieu 25. Matthieu 25. C'est ce qu'on appelle la parabole de 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13 : veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. Avertissement pour dire ceux qui disent : c'est demain que je me consacrerai à Dieu, dans une semaine, dans 3 mois, mais tu ne connais ni le jour ni l'heure. Le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, si le Seigneur t'a parlé dans ton cœur, c'est maintenant. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, au verset 2, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas un autre jour où tu vas dire dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien quand je serai marié, ou bien quand j'aurai 30 ans. Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et cette parabole nous explique que ceux qui seront pris, ce sont ceux qui se seraient préparés et qui seraient dans l'action du maître, dans l'attente, dans la préparation, dans l'action du maître. Pourquoi on pense que cette parabole correspond à l'enlèvement? La différence entre l'enlèvement et le jugement dernier, c'est que l'enlèvement concerne que ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, le jugement dernier, c'est que ça concerne le reste. Et dans cette parabole, on parle de 10 vierges. Donc les vierges, ce sont des gens purifiés par le sang de Jésus. Quand le Seigneur nous purifie par le sang de Jésus, nous sommes considérés comme vierges, nous sommes considérés comme purs. Donc il est question de 10 vierges, il n'est pas question d'un mélange de plusieurs sortes de personnes. Non, c'est les vierges, donc ce sont les gens qui ont été purifiés par le sang de Jésus, qui sont considérés comme vierges par Dieu. Mais on se rend compte que parmi ce groupe, dans le groupe de 10, il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Ça veut dire que dans le groupe de ceux qui sont venus dire à Jésus, purifie-nous, sauve-nous, il y a des sages, il y a aussi des gens qui sont fous. C'est-à-dire qui négligent la parole de Dieu, qui négligent les avertissements du Seigneur, qui sont distraits, qui n'attendent pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit : mais vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc, conséquence, vous devez m'attendre chaque jour. Et donc, il y en a qui sont fous, qui sont distraits, qui ne réalisent pas que c'est un événement important et qui aura lieu. Vous savez, il y a certains chrétiens qui sont dans la logique que Pierre dénonce dans 2 Pierre au chapitre 3. Ils disent, mais ça fait longtemps qu'on dit le Seigneur revient, revient. Et ils sont allés même épouser des doctrines qui racontent que le Seigneur ne reviendra pas. D'ailleurs, Paul attendait ça. Ça ne s'est pas accompli de son temps. Ça ne s'accomplira pas de notre temps. Le Seigneur ne reviendra pas. Pour qu'il revienne, il faut que nous, on devienne des présidents de la République, des grands chefs d'entreprise, qu'on domine sur la terre. Quand nous, on va nettoyer la terre bien dominée, c'est là que nous pouvons faire appel au Seigneur, c'est là qu'il va venir. Ce sont des fausses doctrines qui ne sont pas du tout bibliques. Lorsque nous lisons ce qu'on a lu, l'apôtre Paul l'a dit clairement, le Seigneur reviendra. C'est une réalité. Peut-être que Paul pensait que ça serait en son temps, mais le Seigneur nous a prévenu en ce qui concerne son temps. Il a dit que l'heure, ce n'est que son Père qui connaît, il nous a dit qu'aucun homme ne connaît ni le jour ni l'heure. D'ailleurs, on vient de relire ça encore. Veillez parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Paul aussi ne connaissait pas le jour et l'heure. C'est pourquoi il attendait en son temps et il a bien fait. Au lieu que ça soit pris comme une erreur de Paul, de dire, mais tiens, Paul pensait que c'était en son temps, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas une erreur. C'est l'attitude que nous tous nous devons avoir. Dire, tiens, puisque Paul attendait ça en son temps, nous aussi nous devons attendre ça en notre temps pour être toujours prêts. Veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Maintenant, les chrétiens intellectuels qui estiment que ça fait longtemps que ça a été donné, que ça ne s'accomplit pas, bon, ils trouvent d'autres formules, ben, ils pleureront sur eux-mêmes quand le Seigneur reviendra. Et ils n'attendent pas le Seigneur ne les prendra pas. Mais ce qui se passera après l'enlèvement, ça sera quelque chose de très dur, d'horrible. Autant être enlevé par le Seigneur. Et il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles et les sages se sont endormis. C'est pour nous dire que même les sages non plus n'étaient pas des femmes parfaites. Parce qu'elles se sont endormies aussi, comme les folles. Sauf que elles se sont endormies tout en ayant préparé de l'huile en réserve au cas où. Donc elles étaient prêtes à tout moment. Même si leur chair pouvait manifester de temps à autre la faiblesse. C'est ainsi que nous ne sommes pas en train de dire que les chrétiens qui sont enlevés, c'est les chrétiens parfaits. Mais non, on est en train de dire que c'est les chrétiens sages. Ceux qui auraient compris que nous devons toujours être prêts à tout moment. Même si une somnolence peut nous attraper, mais on est tellement engagé à attendre le Seigneur. On est tellement dans cet élan. On est tellement en route vers le Seigneur que nous avons le carburant nécessaire à son retour, pour son retour. Et maintenant, il y en a qui ne sont pas sages et qui aussi se sont endormis et qui vont rester dans un état de désert, de difficulté, parce qu'elles ne vont pas être acceptées parce qu'elles n'avaient pas de lampe. Le monsieur qui doit les accueillir ne les reconnaissait pas sans lampe. Il fallait savoir c'est qui veut entrer dans la fête. Mais elles n'avaient pas de lampe. Elle dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Si vous étiez vraiment dans la tente pour me voir, pour être avec moi, vous auriez vos lampes. Mais vous ne les avez pas, ce n'est pas allumé. Et c'est écrit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura de grandes souffrances. Des gens ne seront pas enlevés. Maintenant, ce n'est pas le jour d'expliquer ça aujourd'hui, mais on donne quand même cette note. Ils ne seront pas enlevés, mais comme c'est des vierges, nous pensons que dans la souffrance qui va venir, et elles vont se rendre compte, ces chrétiens-là vont se rendre compte que la Bible disait vrai, et ils vont se repentir pour être sauvés cette fois-ci. Mais comme il est dit dans d'autres passages, ça sera au prix de leur vie, au prix de grandes souffrances. Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur peut nous sauver tranquillement, dans la facilité. Il faut qu'on se saisisse de ça et qu'on soit des vierges sages et non des vierges folles. Donc, qui sera enlevé? Ce sont des vierges sages qui seront enlevées, des gens qui se préparent à la venue du Seigneur, des gens qui sont éveillés, des gens qui ont de l'amour pour le Seigneur en réserve, qui ne font pas de la religion, mais qui vivent pour leur maître, qui vivent pour le Seigneur. Et ce sont des gens qui obéissent à ce qui est écrit dans Amos 4, 11 à 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à ça. Ce ne sont pas des gens distraits qui créent des choses sur la terre pour diriger, pour être des chefs, mais c'est des gens qui sont en route vers la rencontre de leur Dieu. Et ce sont des gens qui acceptent toute la parole de Dieu. Vous savez, c'est écrit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Toute la parole de Dieu est nécessaire pour garder la vie. Donc quand on néglige certaines parties parce qu'on veut être appuyé par d'autres, ben, il est écrit, ton péché te retrouvera. Il faut accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, pas telle que toi tu veux que ça soit donné. On se souvient de la parabole de Luc 16. Jésus nous donne la parabole de Lazare et du riche. Ils se sont retrouvés tous, ils étaient morts les deux. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et le riche se trouve en enfer en train de souffrir. Et il a dit, Père Abraham, envoie des gens aller prêcher, envoie Lazare aller prêcher à mes frères pour que mes frères ne se retrouvent pas dans ce lieu aussi. Et Abraham dit, mais ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les Écritures, qu'ils écoutent ce qui est lu dans les Écritures. Mais lui, il a dit, mais non, si tu envoies Lazare qui ressuscite des morts, ils vont mieux écouter. Abraham lui dit, non, s'ils n'écoutent pas ce qui est écrit, ils n'écouteront pas, même si quelqu'un ressuscite des morts. C'est ça la réalité. Si quelqu'un a un cœur dur, même quand il va voir des miracles, il va être impressionné, mais il ne va pas changer. Pharaon n'a pas changé parce que Moïse faisait les miracles. Il est resté mauvais jusqu'à la fin. Certains diront, mais c'est Dieu qui l'a endurci. Mais Dieu l'a endurci parce qu'il était déjà mauvais. Dieu lui a donné la force pour qu'il résiste à Moïse jusqu'à la 10e plaie. Mais il était mauvais lui-même. Il était opposé à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on aurait fait des choses extraordinaires que les gens vont se convertir. Les gens vont se convertir parce qu'ils ont un cœur qui veut de Dieu. C'est ça la réalité. Celui qui a un cœur qui ne veut pas de Dieu, il va venir pendant un temps, mais finira par retourner dans le monde. Parce qu'il est au plus profond de lui, il ne veut pas du Dieu qui est amour. Il ne veut pas de l'ordre de Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit le chef. Il ne veut pas. Et c'est pourquoi cet homme-là a dit, c'est une démonstration que les gens qui iront en enfer, ils sont de la nature de l'enfer. Parce qu'on lui dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Cet homme dit non. La façon de Dieu de faire, je ne suis pas d'accord. Que ce soit les Écritures qui sauvent. Parce qu'il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais non, s'il y avait des miracles, les gens seront touchés. Dieu dit, mais non, c'est la parole qui touche les gens. Ah non! Cet homme a manifesté qu'il était opposé à Dieu. Pour ceux qui étaient peut-être mécontents de dire, mais attends, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il va aller quand même. Dieu l'a envoyé en enfer. Où est le mal d'être riche? Mais là, nous avons la réponse par rapport à sa réaction. Quand il dit, non, Père Abraham, s'il y a quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts, c'est là qu'ils vont croire. Abraham dit, non, monsieur. S'ils ne croient pas en ce qui est écrit en Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Donc la personne a voulu dire, mais non, cette méthode-là n'est pas bonne. Dieu se trompe. Et là, nous avons la réponse pourquoi cet homme s'est retrouvé en enfer en réalité, parce qu'il n'était pas d'accord avec Dieu. C'est quoi être d'accord avec Dieu? C'est accepter ce qu'il a écrit dans sa parole. Et ne pas penser qu'il y a un autre moyen. On est des humains, on peut penser ça. Mais quand on lit la parole de Dieu, changer, dire non, ce que je pense, ce sont des pensées humaines. Dieu a dit, c'est ainsi que ça doit se passer. Je dois accepter que ça se passe tel que Dieu a fait les choses. Je suis né dans une famille pauvre, j'accepte parce que Dieu a permis cela. Je suis né dans tel pays, j'accepte parce que Dieu a permis cela. Dieu a permis que j'aie telle taille, j'accepte puisque Dieu a permis cela. Et quand on commence à remettre en question tout ce que Dieu a fait, on t'a fait femme, tu veux être homme, on t'a fait homme, tu veux être femme. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la rébellion sans cesse grandit contre Dieu. Nous, on dit non, nous croyons que Dieu ne se trompe pas, il sait ce qu'il a fait en me sortant tel qu'il m'a sorti. Et je veux croire en sa parole totalement. C'est important, bien-aimé. Vous savez, beaucoup d'entre nous sommes nés après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, c'est peut-être des films. Pour nous, c'est peut-être des histoires. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui l'ont vécu, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens, eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu le fait de manger quelque chose qui est tombé à terre et qui a subi la pluie. Donc le pain est tombé par terre, ça fait un moment, deux jours, tu manges ça. Il y a des gens qui ont vécu ça. Pour nous, ça peut être des histoires, mais il y a des gens qui l'ont vécu. Pour nous, l'enlèvement peut être comme une légende, comme un rêve. Sachez que ça arrivera. C'est pourquoi Jésus compare ça à Sodome et Gomorre. Il compare ça au temps de Noé. Il dit, au temps de Noé aussi, c'était la même réaction. Les gens pensaient que c'est une légende, c'est une histoire. Et ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. La vie continuait son cours, mais c'est arrivé. Imaginez les gens sur qui est tombée la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale est venue après une première guerre. Déjà en 1918, je crois que les gens s'étaient dit, bon ça y est, on vient de souffrir d'une grande guerre, d'ailleurs qu'on appelle la guerre de 14-18, la grande guerre. On vient de subir une grande guerre, je crois que les humains ont compris. C'est bon, il n'y aura plus de guerre. Parce que la grande guerre a tué trop de gens. Donc les humains ont compris. Mais ça n'a pas dépassé 40 ans qu'ils se sont lancés dans une guerre encore plus meurtrière. Et aujourd'hui, bien aimé, ça peut arriver aussi à notre époque. On entend non, des bruits de bottes en Ukraine. Ça peut arriver. Une guerre mondiale peut revenir encore. Les gens qui avaient subi la Première Guerre mondiale s'étaient dit, on ne croit pas que l'homme soit encore fou pour faire de telles choses. Mais oui, 30 ans après, c'était revenu. Ça peut revenir encore. Ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, quand les gens vont dire paix et sûreté, une ruine soudaine viendra. Quand ils vont dire, oh, nous sommes devenus conscients, nous voulons maintenant la paix. Il est écrit, une ruine soudaine viendra. Quand la parole dit qu'il y aura enlèvement, ça sera une ruine soudaine pour beaucoup de gens. Ça va arriver. Tu sais, ça fait 20 ans que tu en entends parler, d'accord. Mais ça va arriver. 2 Pierre 3, Pierre nous explique cela dans 2 Pierre 3. Verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? L'enlèvement, on l'appelle aussi l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et voilà ce que Pierre dit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que la patience du Seigneur ne soit pas mal interprétée. La patience du Seigneur n'est pas synonyme de la nonchalance. Non, il est patient, il veut que tous les hommes soient sauvés. N'interprète pas mal sa patience. Un jour, sa patience atteindra sa limite et ça sera le jour de l'enlèvement, le jour du jugement. Et ce que tu as amassé, comme dit Jésus, ce que tu as amassé, le monsieur de Luc 12, il avait amassé des richesses dans des greniers. Il a dit, oh, je ne veux plus travailler. Mais là, le soir même, il était mort. Et Jésus dit, mais à quoi va aller servir maintenant tout ce qu'il avait amassé? Et bien aimé, si tu passes ton temps à amasser, viendra un jour où tu seras confus parce que ça n'aurait servi à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais il faut d'abord chercher le royaume des cieux et le reste viendra. Le travail et tout le reste. D'abord le royaume des cieux. Ce sont ces gens-là qui sont enlevés, des gens qui ont mis la priorité sur le royaume des cieux. Ils n'ont pas mis la priorité sur eux-mêmes. C'est sur le royaume des cieux qu'ils ont mis la priorité. Ils n'ont pas mis la priorité pour... Vous savez, même les gens qui viennent dans les églises, vous savez, les pharisiens, c'était des gens qui servaient officiellement Dieu. Mais leur priorité, c'était leur religion. C'était eux-mêmes. Comment être riche, comment être stable. C'était eux-mêmes. Donc, il y a des gens qui peuvent venir dans les églises, mais sa priorité, c'est lui-même. Donc, il veut se mettre dans des conditions où il est à l'aise. Or, Jésus a dit à Pierre, « Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire dans la maturité, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. » Voilà le vrai candidat en enlèvement. Donc, il est prêt à ce que Dieu lui mette la ceinture et l'amène où lui ne veut pas. C'est Dieu qui décide. Il ne cherche pas son confort, entre guillemets, spirituel, mais il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, ce n'était pas confortable pour Paul d'aller prêcher aux païens. Il aurait préféré prêcher qu'aux juifs. Mais c'était l'ordre de son Seigneur qu'il a rencontré à Damas. Il a dit, je t'envoie aller prêcher aux païens. Paul, il était plus juif que les Pierre et les apôtres, et tous les apôtres. Il était plus juif qu'eux, descendant de la tribu de Benjamin. Les autres venaient de la Galilée. Lui, il était de la tribu de Benjamin. Fils de pharisien. Lui-même pharisien. Il était plus juif. Ça aurait été pour lui beaucoup plus simple de prêcher aux juifs. Mais Dieu lui a dit, c'est aux païens que je t'envoie prêcher. Et il est parti. Par amour pour son Seigneur. Ceux qui cherchent une sorte de confort personnel dans les choses de Dieu ne seront pas enlevés. Ils n'ont pas l'huile. C'est des pharisiens. Ils n'ont pas l'huile. Ce sont ceux qui attendent vraiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, mais qui ne cherchent pas leur confort, qui ne cherchent pas à ce qu'intellectuellement ils soient satisfaits. Il y en a qui veulent comprendre avant d'obéir. Non, ce qui est écrit, c'est écrit. Et c'est ce qui a bloqué ce riche-là. Il voulait tout saisir et en cela, il a préféré s'occuper des choses qu'il maîtrisait, l'argent, tout ça, et il a négligé Dieu. Et il s'est retrouvé en enfer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as déjà compris ça, c'est très, très important. Vous savez, il y a un passage qui, dans 1 Corinthiens 15, c'est dit ceci. 1 Corinthiens 15, 1 à 3, peut-être 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul dit, attention, vous risquez de croire en vain si vous négligez le plus important. Le plus important, c'est que l'homme a un problème, il a le péché. Et Jésus, le Fils de Dieu, est venu prendre ses péchés afin que l'homme soit sauvé. C'est ça le plus important. Et ce Jésus-là, il est ressuscité. Ça veut dire que les choses ne sont pas terminées. Nous serons tous appelés à cette résurrection-là. Voilà, si quelqu'un n'a pas compris ça, il se dit, je suis bon, je suis en Christ, mais c'est la terre qui m'importe. Il oublie que Christ est ressuscité. Donc il nous appelle à... Pourquoi il nous a sauvés s'il ne faut pas qu'il soit avec nous? Oh, où est-ce qu'il est maintenant physiquement? On ne le voit pas. Donc il y a un appel à vivre avec lui un jour. C'est pourquoi il nous a sauvés. Mais un chrétien qui néglige ça, qui oublie que l'essentiel c'est ça. Moi, j'entends des chrétiens aujourd'hui débattre sur des choses futiles. Est-ce qu'une femme peut chanter ou pas? Bien-aimé. Mais est-ce que c'est pour des choses comme ça que nous devons nous battre? Ou bien pour sauver les âmes, les amener au ciel, au faire que Jésus soit dans la personne? L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, pour les petites choses de ce genre-là, Dieu nous éclairera. Mais nous restons dans le plus important. C'est que l'homme a un problème, il a un péché. Et il doit se repentir et laisser Jésus-Christ prendre sa vie en charge. Sinon, il est perdu. Voilà ce que nous devons travailler pour cela. Est-ce que ça veut dire que je néglige les fausses doctrines? Non, je fais plus confiance en Jésus qu'au débat. Si quelqu'un a Jésus vraiment en lui, il finira par accepter les Écritures. Je fais plus confiance au fait que quand Jésus est dans la personne, il va le guider dans les sources pures, à tout ce que je peux présenter comme argument pour convaincre quelqu'un. C'est pourquoi le plus important, c'est de dire aux humains, vous avez le péché en vous, vous avez un problème et ça va vous perdre. C'est ce que Jésus dit dans Jean 8, 23 à 24. Il dit que si vous ne vous convertissez pas, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Vos péchés vous tueront. Capitulez devant moi. Laissez-moi devenir votre sauveur et votre maître. C'est ce que nous devons. Nous devons insister sur ça, ne pas nous laisser distraire. Je vais revenir sur la distraction à la fin. Bref, c'est ce que cette parole de 1 Corinthiens 15, 1 à 4 que nous devons tous serrer fortement. Sinon, on aurait cru en vain. Commencer à s'égarer dans des choses futiles. Non, il faut rester dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ce sont ces vierges-là sages qui seront enlevées. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la religion. Laisse Jésus-Christ prendre la totalité de la place. Laisse Jésus-Christ régner totalement. Ne sois pas dans le schéma personnel. Laisse Jésus-Christ régner. Pierre aimait Jésus, mais physiquement. Et quand il a renié Jésus, il a accepté maintenant que Jésus règne en lui. Il pensait que c'est lui qui gérait son amour pour Jésus. Seigneur, si quelqu'un te touche, moi j'interviens. Seigneur, Jésus dit, oh, tu parles trop, Pierre. Tu vas me renier 3 fois. Parce qu'il faisait par ses propres efforts. Et après le reniement, il a compris que il avait besoin que Jésus le remplisse de son amour. C'est que notre frère Jean nous dit dans 1 Jean 4, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Il fallait d'abord qu'il accepte l'amour de Jésus. Et c'est cet amour-là qui allait le rendre fidèle à Jésus. Ce n'est pas son propre amour à lui. Il s'est humilié, il est devenu tout petit. C'est ainsi que quand Jésus lui a mis la pression, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà. Je ne veux pas te prouver par quoi que ce soit. Tu sais que dans mon cœur, je t'aime maintenant. Jésus a dit, Allah, tu as compris. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Voilà. Ceux qui seront enlevés. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Nous lisons dans Apocalypse 14, 6 à 12. Apocalypse 14, 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici, verset 12, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il nous est dit qu'il y aura un temps où Satan maintenant va dominer sur terre et va imposer une marque sur le front et sur la main des gens. Et malgré ce fait-là, l'annonce de l'évangile sera toujours claire. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais les gens ne savent pas. » Mais les gens savent, ils savent. Et on nous dit qu'un ange du ciel va annoncer l'évangile éternel. Clairement, pour dire aux gens, n'acceptez pas la marque. Tous ceux qui acceptent la marque iront dans le feu éternel. Mais ça sera un temps difficile pour ceux qui vont rester. Parce que s'ils refusent la marque aussi, ils vont être persécutés par le diable fortement. Et ça sera certainement la mort. Ça sera un temps très difficile. Mais malgré la difficulté du temps, un ange va prêcher pour dire aux gens, attention, vous êtes prévenus, n'acceptez pas la marque de la bête. N'acceptez pas. Et on dit dans verset 12, voilà la persévérance des saints. Les saints, c'est ceux qui diront, bon, tant pis, nous mourrons sur terre, mais nous restons fidèles à Dieu. Des gens parmi ceux qui n'auraient pas été enlevés, qui auraient compris que là, l'enlèvement a eu lieu et nous ne voulons plus rater une nouvelle fois le Seigneur. Nous préférons persévérer, nous refusons qu'on nous mette la marque, quitte à nous tuer, quitte à nous couper les doigts, nous refusons la marque. Et ce sont ces gens-là qui vont persévérer et qui sait, peut-être d'autres personnes vont aussi se rendre compte que l'ange dit la vérité et ils vont refuser aussi. Donc des gens, alors ce n'est pas précisé, mais c'est possible. Toujours est-il que les saints vont persévérer et vont refuser la marque de la bête et ils ne vont pas vouloir louper une deuxième fois le Seigneur. Mais ça sera des temps très difficiles puisque c'est Satan qui va régner. Et je ne conseille ça à personne. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pasteur, pourquoi malgré l'enlèvement, les gens ne se convertiront pas quand même en masse? Pourquoi? Parce que Satan prépare aussi les gens à ne pas se convertir après l'enlèvement. Parce qu'on se dit, mais tiens, si des millions de personnes quittent la terre d'un coup, disparaissent, ça va interpeller toute la terre. Oui, mais les gens, comme nous l'avions dit au début, ils ne se convertissent pas parce que ce n'est pas clair. Ils ne se convertissent pas parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas du système de Dieu. Et le monsieur, le riche, a dit à Abraham, « Abraham, envoie quelqu'un qui est ressuscité pour parler à mes frères. Je crois qu'un tel miracle va les convertir. » Mais Abraham a dit, « C'est faux. S'ils ne veulent pas se convertir parce que la parole leur a été lu, ils ne se convertiront pas même quand il y aura un ressuscité. » Là, nous venons de lire, c'est un ange, bien aimé, imaginez ça. Un ange qui circule au ciel, qui parle. Si les gens ne se convertissent pas, c'est parce que leur cœur est dur. Ils ne veulent pas de Dieu, même si c'était clair. Et il y a une autre raison, Satan aussi va se préparer. Vous n'entendez pas parler aujourd'hui régulièrement des extraterrestres, extraterrestres à gauche, extraterrestres à droite, extraterrestres. Alors on va faire croire aux humains que ceux qui ont disparu, en fait c'est les extraterrestres qui les ont pris. Ce n'est pas Dieu, ne croyez pas à ces choses-là. Moi, il y a un documentaire qui passe presque chaque jour sur, j'allais dire France 24, sur une chaîne, RMC, voilà, c'est le numéro 24 sur Free. Et ils expliquent que tout ce que nous on dit que c'est Dieu, en fait c'est les extraterrestres. Donc on prépare, voilà, toute une chaîne est faite pour préparer, parce que cette émission-là, c'est comme si ça passe peut-être 3 fois par semaine. Donc ils expliquent que tout ce que nous appelons Dieu, en réalité, c'est les extraterrestres. Et je vous dis que c'est une émission soutenue. Imaginez que ça passe 3 fois par semaine. Ça veut dire que c'est des heures et des heures. Des heures et des heures d'émissions qui ont été faites, préparées pour dire aux gens, il n'y a pas Dieu, c'est les extraterrestres. Donc quand bien même qu'il y aurait l'enlèvement, on dira aux gens, oh mais c'est les extraterrestres, il n'y a pas Dieu. Voilà. Et les gens ne se convertiront quand même pas. En réalité, c'est parce que leur cœur est dur. Parce que de l'autre côté, l'ange aussi va prêcher clairement l'évangile éternel. Mais il y a une deuxième phase. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est les coupes de la colère de Dieu. Parce que cet ange n'a pas encore, c'est pas encore la phase où c'est Dieu qui envoie la colère. C'est la phase où c'est Satan qui manifeste sa colère dans l'humanité en imposant la marque de la bête. Mais il y aura une phase où c'est Dieu maintenant qui manifeste, qui juge la terre. C'est écrit, on lit dans Apocalypse 16. C'est ce qu'on appelle les coupes de la colère de Dieu. On ne va pas lire tout le texte, c'est assez long. Nous lisons que les versets 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ça, c'est Dieu qui déverse maintenant sa colère. C'est pourquoi, vous savez, il y a deux positions par rapport à l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent que les gens seront enlevés avant qu'il y ait des difficultés immenses sur terre. Il y a d'autres qui pensent que non, c'est après ça. Bon, nous pensons que, puisque Dieu nous a sauvés de sa colère, lorsque, vous savez, Jean-Baptiste dit, mais qui vous apprend à fuir la colère à venir? Et dans Jean 3, 36, Jésus dit, celui qui croit au Fils est sauvé, à la vie. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ça veut dire que celui qui croit, la colère de Dieu n'est plus sur lui. Et dans Jean 5, 24, il dit, celui qui croit en Dieu ne passe pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc nous pensons que si nous croyons, c'est justement pour fuir la colère de Dieu. On n'est pas d'accord sur le fait que, ayant cru en Jésus, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous allons subir quand même les coupes de la colère de Dieu. C'est une contradiction. C'est pourquoi nous pensons que le chrétien sera enlevé avant que les coupes de la colère de Dieu soient déversées sur la terre. Et nous lisons Apocalypse, donc au chapitre 16. Nous continuons. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Voilà ce qui va se passer. Dieu va déverser sa colère sur terre de toutes sortes de manières. Les maladies, le feu, les gens vont souffrir énormément. On ne nous dit pas que ceux qui auraient loupé l'enlèvement, en parlant de ceux qui viennent dans les églises, seront préservés de cette colère-là, on ne nous dit pas. Mais pensons un seul instant qu'ils subissent aussi cette colère-là. Espérons qu'ils vont être tués déjà à la première phase. Donc là où quand le diable va régner, il va les tuer. Espérons. Mais même cette première phase est une phase difficile. Où c'est Satan qui règne. Où tu souffres. Si tu veux un peu de vérité, tu vas souffrir. La torture. Comme ce n'est pas spécifié, nous espérons que, après ce temps, cette phase-là, Satan aurait tué tous ceux qui ont voulu vraiment après être de Dieu, après l'enlèvement. Mais maintenant, si ce n'est pas le cas, subir encore les coupes de la colère de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, ma prédication, c'est accepte. Choisis l'enlèvement. Choisis l'enlèvement. Ne joue pas au retardataire. Ne joue pas à ça. Laisse-toi sauver aujourd'hui par Dieu. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Refuse la distraction. Refuse la distraction. Vous savez, l'apôtre dit dans 2 Timothée 2, il dit à Timothée, vers le verset 24, 2 Timothée 2, 24, l'homme de Dieu n'est pas appelé aux querelles. Toute la journée, tu passes. Vous savez, comme on dit au 7e siècle, les chrétiens passaient leur temps à débattre sur le sexe des anges. Et entre-temps, l'islam était en train d'avancer. Bien-aimé, n'accepte pas que quelqu'un te prenne 4 heures, 3 heures de temps à débattre sur le fait que
une femme doit être voilée ou pas, doit chanter ou pas. Fais comme Paul dit, sur ce point-là, Dieu nous éclairera. Mais moi, c'est 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à sortir les gens des ténèbres et à les poser au paradis. Quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, je te donne les clés. Il a dit, je vous donne les clés pour ouvrir le ciel aux gens. Ce n'est pas pour commencer à débattre. Est-ce qu'il doit avoir... On peut chanter Dieu avec une guitare ou pas? Non, mais bien aimé. J'entends même des distractions du genre, ce n'est pas normal quand les gens se marient, compris pour eux, devant l'assemblée. Mais bien aimé, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie chrétienne? Compris pour des gens qui sont mariés. On prie bien pour manger, on prie bien pour voyager, et on ne peut pas prier pour les gens qui se sont mariés. Donc, c'est des distractions dans le corps du Christ. On veut nous distraire. Que l'on prie pour toi devant ou pas, qu'est-ce que ça va changer dans ta marche avec le Seigneur? Et on entend des chrétiens qui passent des heures à discuter sur ce genre de choses. Non! Les temps sont difficiles. On entend le bruit de guerre là. C'est le moment de choisir d'être enlevé, de se concentrer sur l'évangélisation. Parler aux gens du salut. Toi-même, t'attacher au Seigneur, appartenir au Seigneur. Chercher davantage le Seigneur, parce qu'il récupérera seulement ceux qui l'attendent. Ne nous laissons pas distraire. La perfection ne se trouve pas sur la terre. Il y a des points sur lesquels nous ne devons pas transiger, mais il y a des points qui sont des points de distraction. Que quelqu'un dise que Jésus n'est pas Dieu, on n'a rien à voir avec une telle personne. Mais que quelqu'un commence à nous faire des débats sur telle chose, la couleur. Mais non, bien-aimé, ce qui est important, c'est qu'un humain abandonne sa vie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur, lui-même, il utilisera bien sûr d'autres humains, mais il s'occupe de cette personne-là parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il s'en occupe. Ramenons les gens à Jésus et non à nos logiques à nous. Que Jésus soit le maître, que Jésus soit le centre, parce que c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une église. Ne nous laissons pas distraire, débattre indéfiniment sur le fait qu'on doit prendre la sainte cène, il faut que ce soit la vraie nourriture. Mais qu'est-ce que ça va faire qu'on mange les pommes de terre au lieu du pain? Soyons sérieux. Ah non, vous mangez juste un petit pain comme ça, il faut vraiment manger. Mais manger, qu'est-ce que ça va faire pour la vie spirituelle de quelqu'un? L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 8, un aliment ne va rien nous apporter, qu'on le mange ou pas, ça ne va rien changer sur notre vie. Il y a des gens, oh, mais oui, mais vous n'êtes pas dans les voies de Dieu parce que vous ne mangez pas. Vous mangez juste un bout de pain. Donc celui qui mange, c'est celui qui est dans les voies de Dieu. Mais bien aimé, ce sont des débats stériles, ce sont des gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui ne sauvent pas les âmes, c'est pourquoi ils sont comme ça. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, « Je me suis fait tout à tous, pourvu que je puisse gagner quelques-uns à Christ. » Je me suis fait tout à tous. Lorsque parmi les Juifs, parce que ce qui est fait par les Juifs, bien-aimés, qui est dans la Bible, ce n'est pas un péché de le faire encore aujourd'hui, puisque c'est dans la Bible. Puisqu'il y a eu certaines instructions qui étaient dans la Bible, les juifs chrétiens, parfois, certains continuent à le faire, ou bien les juifs non chrétiens continuent à le faire. Paul dit, quand je suis avec de tels juifs, je fais ça aussi. Mais je sais que nous sommes dans le temps de la grâce. Quand je suis avec les non-juifs, je ne fais pas ces choses-là. À un moment donné, Paul s'est rasé pour faire un vœu, comme les juifs le font. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un compromis. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, Paul dit avec les juifs comme avec les juifs. Moi, j'irai prêcher l'évangile dans une boîte de nuit. Ah, non, bien-aimé, là, on va te mondialiser là-bas, c'est ton problème. Paul faisait des choses qui n'étaient pas interdites par la parole. Quand il dit avec les juifs comme avec les juifs, il faisait les choses qui sont dans la Bible, mais que Jésus ne nous demande plus de faire. C'est là qu'il le faisait. Ça n'est pas un péché parce que c'est dans la parole de Dieu. Et quand il était avec les païens, les non-juifs, il ne pratiquait pas forcément les choses que les juifs faisaient. Il se contentait de 1 Corinthiens 15, 1 à 4. C'est tout. Mais c'était quelqu'un qui voulait sauver les gens, qui travaillait. Mais ceux qui ne travaillent pas passent leur temps comme les Grecs. On dit dans Actes 17 que les Grecs passaient leur temps à débattre. Oisifs. Et Paul en parle aussi dans Tite, il dit, même leurs poètes appellent les Crétois paresseux. Oisifs, en train de passer le temps à discuter sur la taille des anges. Non! On n'a pas le temps pour ça. On a le temps pour les humains, pour les sauver, pour leur parler d'évangile. Vous savez, quand on est pasteur, qu'on est confronté à des couples qui ont des difficultés, à des enfants maltraités, on est confronté à des femmes qui souffrent, à des hommes incompris, et qu'on est en train de les aider, quand on entend des débats de ce genre-là, on ne prie pas pour telle chose. Mais tu te dis, mais ces gens-là sont en train de rêver, ils sont dans un monde où ils sont dans. Non, c'est des paresseux, des orgueilleux, des gens qui veulent faire leurs propres désirs au lieu de choisir le Seigneur. Le Seigneur lui-même, quand il était sur terre, quand il est allé chez Zachée, le collecteur d'impôts, les gens l'ont critiqué. Il va chez un homme pécheur. Mais il a dit, mais Dieu, le médecin, il vient pour qui? Il vient pour les malades, comprenez? Ses disciples ont cueilli les épis. Ah, mais ils ont fait ça le jour de sabbat. Mais Jésus dit, mais le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il y a des gens qui veulent nous entraîner dans des débats stériles. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Rends à César ce qui est à César, mais toi tu es à Dieu, rends-toi à Dieu. Parce que sur la pièce, il y a l'image de César, mais sur toi aussi il y a l'image de Dieu. Rends ça à Dieu. Nous clôturons avec cela. Rends-toi à Dieu. Sors de la distraction. Sors des querelles sans fin. Sors de l'hésitation, ah, je me donnerai à Dieu dans 3 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine. Quand j'aurai 16 ans, quand j'aurai 17 ans, sors de cela. Le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Choisis l'enlèvement plutôt qu'après l'enlèvement. Choisis l'enlèvement. Seigneur, nous prions que tu parles à nos cœurs, que nous choisissons d'être sauvés maintenant et non pas après. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi. Merci Seigneur de nous aider à saisir ce qui est important. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ce qui est important, c'est de te laisser dominer sur nos vies. Comme tu as dit aussi, à ce monsieur-là, ce qui est important, c'est de sauver les âmes. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les débatteurs débattre à la télévision. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va sauver les âmes. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que nous soyons attachés à l'essentiel, qui est que notre vie soit entièrement vouée à glorifier ton nom, à magnifier ton nom, à t'appartenir, que nous soyons à toi et non à nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en cœur, que tout mon être vibre pour toi. Amen. Sois seul mon maître, ô divin roi. Reprends mon âme. Reprends mon âme. Prends-la, Seigneur. Oh. Et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon
maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte,
calme notre crainte, Seigneur,
sois mon seul bien.